large weapon down below. We're gonna go down and check it out.
Alright, this is Hawk 5. I'm rolling.
Outstanding, Red Team. Outstanding. Get your case of beer for that.
C'est l'émission En attendant la bombe, comme tous les mardis à 17h avec Scalpa. On est le 10 novembre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai un invité avec moi, c'est Antoine de l'association Alternative Positive. Salut Antoine.
Bonjour.
Alors Antoine, vous présentez un festival à Marseille du 12 au 22 novembre 2009.
Oui, tout à fait. C'est le festival Entre Tradition et Modernité, donc qui a lieu à Marseille du 12 au 22 novembre. C'est réparti sur plusieurs lieux. Principalement à la Baleine qui divague, mais aussi au cinéma du Prado, à Lousteau au Pays Marseillais et un spectacle au collège Gizo.
Mais avant de partir dans le festival lui-même, on va parler un peu de l'Alternative Positive.
Alors, l'Alternative Positive, c'est l'association qui a organisé le festival. On a créé cette association avec Nelly Ponce en 2005. L'objectif au départ, c'était de diffuser de l'information qu'on jugeait positive, c'est-à-dire c'est-à-dire parler des problématiques rencontrées à travers le monde, mais sous un angle positif, sous l'angle des initiatives, des solutions, tout ça.
Donc dans le domaine équitable, solidaire.
C'est dans le domaine
du commerce.
Justement, c'est de parler des solutions qui sont proposées. Donc souvent, c'est vrai qu'on rencontre des solutions qui ont lieu par le domaine du commerce équitable, par la solidarité de toute façon, quoi.
Mais tu peux nous donner un peu un exemple par rapport.
L'exemple, c'est le premier. Par exemple, première chose qu'on a faite, c'est qu'on avait projeté un documentaire qui s'appelle Le Chemin des Neuf Mondes. Ça parlait des Indiens Kogi en Colombie, qui vivent sur la Sierra Nevada, et c'est une association qui s'appelle Chendukua. Leur objectif était de racheter des terres pour ces Indiens Kogi. Comme la plupart des peuples autochtones, ces Indiens se sont fait expulser progressivement de leurs terres, par les narcotrafiquants notamment.
Mais de quelle région?
En Colombie, la Sierra Nevada en Colombie. Okay. Et cette association donc, a décidé pour que les Indiens retrouvent leurs terres, alors ils pourraient revendiquer, manifester. Eux, leur action, c'est de dire on va faire ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va collecter des fonds, on va racheter les terres qui leur appartenaient autrefois. Et aujourd'hui, ces Indiens ont un acte de propriété qui fait que c'est leur terre est à eux, leur appartient, ils ne peuvent plus être expropriés. Mmh. Voilà, c'est une des solutions qu'on a rencontrées, il y en a eu beaucoup d'autres depuis.
C'est un problème que vous avez résolu.
Alors nous, on résout rien, nous, on diffuse de l'information.
Vous médiatisez le problème.
Voilà, on diffuse des informations, on projette beaucoup à travers le documentaire, parce que je trouve que c'est un support assez intéressant pour avoir une compréhension d'abord des problématiques, et ensuite par les rencontres avec des associations, les rencontres avec des personnes, avec des idées aussi. Voilà. C'est comme ça qu'est né le festival. Le festival est un festival de conférences, de rencontres et de projections de documentaires. Il y a un aspect spectacle aussi, parce qu'on s'est dit que pour diffuser de l'information, il y avait plusieurs supports possibles.
Et vous les sensibilisez comment alors par rapport à cette information, les gens? Vous diffusez des films?
Voilà, il y a des projections de films avec, si possible, la plupart du temps, on a la présence du réalisateur ou d'une personne qui est capable de parler des problématiques qui sont soulevées sur le film. Avant, je voudrais dire en fait, nous, voilà, le festival entre tradition et modernité, ça s'est constitué autour d'une volonté de préserver la diversité culturelle. Donc nous, notre idée au départ, c'est ça, c'est de dire on veut montrer qu'il existe des différentes cultures et que c'est important de les préserver. Avec la modernité croissante et qui est souvent imposante dans ces peuples, on essaye de mettre en avant, voilà, les initiatives qui sont faites pour préserver ces cultures. Ça se passe par donc la projection de documentaires, mais pas seulement. Il y a aussi ce que je disais, des spectacles aussi, parce que ça permet de toucher d'autres personnes qui sont peut-être moins sensibles au langage du documentaire et qui sont plus sensibles à un conte ou à un spectacle de danse ou à de la musique. Voilà.
D'accord.
C'est assez vaste.
Et d'où ce festival donc, qui est présent entre tradition et modernité? Ce festival, il est dans ce cadre-là?
Alors, ce festival, voilà, est tout à fait. On a monté en 2008, la première édition est née d'un reportage qu'on a fait avec Nelly Ponce sur les Maasai et sur la modernisation des Maasai. Et on a constaté un certain nombre de problématiques pendant ce reportage et on s'est dit, mais finalement, ce que rencontrent les Maasai, c'est ce que rencontrent les Indiens Kogi dont je parlais tout à l'heure, mais c'est aussi ce que rencontrent tous les peuples, ce qu'on appelle les peuples premiers, c'est-à-dire les peuples qui étaient là avant la colonisation, pour faire simple. Et donc, du coup, on a voulu parler pas seulement des Maasai, mais parler de l'ensemble de ces problématiques qui sont souvent liées à des problématiques de territoire, d'éducation, tout ça. Voilà, le festival est né de ça, et c'est toutes ces questions qu'on essaye de soulever et de...
Donc ce festival, c'est la deuxième édition cette année.
Cette année, c'est la deuxième
édition. Sur Marseille, l'année dernière, c'était sur Marseille, pareil.
Cette année, voilà, tout à fait.
D'accord. Donc cette année, ça va être sur une dizaine de jours, enfin sur 10 jours d'ailleurs.
Oui, c'est réparti sur deux week-ends, du 12 au 15, et après ça reprend, on a une journée enfant le mercredi.
Ouais, c'est la journée des enfants le mercredi.
Voilà, avec un partenariat avec l'école Bellevue, c'est l'école Félix Piat, qui va faire des ateliers pour les enfants. Pareil, toujours autour de cette idée de sensibiliser les enfants à d'autres cultures.
D'accord.
Et ça reprend le vendredi 20 novembre jusqu'au 22, avec pas mal de propositions différentes. Alors, le premier week-end est plus axé justement sur la diversité culturelle, sur la découverte de culture. On va voyager, il y a une exposition photo et un concert de musique calabraise, une exposition photo sur les danses et musique de Calabre et du sud de l'Italie. Il y a une rencontre avec une femme manouche qui va nous parler de son peuple. Il y a une rencontre avec la culture indienne, amérindienne au Québec, par l'herboristerie, par un documentaire. Et le deuxième week-end, lui, est un petit peu plus axé sur la transmission. Comment préserver une culture, comment préserver une mémoire. Donc c'est plus le lien aux anciens, le lien à la transmission. Et avec des initiatives assez, assez originales, il y a l'association Cri et Cri, qui est une association marseillaise, ouais, qui fait du collectage dans les quartiers, qui fait du collectage, qui en a fait à la Balle de Mai d'ailleurs, qui a fait des collectages à la cité des créneaux avant qu'elle soit réhabilitée. Donc ils vont voir les habitants, ils leur demandent un peu, c'est des interviews d'habitants, et c'est assez intéressant. Là il y aura une exposition, ils vont venir nous parler de cette idée. Il y a un documentaire aussi sur du collectage, alors un petit peu différent, c'est des gens en Espagne qui vont dans les campagnes et qui vont enregistrer les vieux, principalement des vieilles dames d'ailleurs, qui chantent sur leurs chants traditionnels avant. D'accord. Que ces vieilles disparaissent, pour préserver les chants des campagnes. Quoi.
Parce qu'ils ne sont pas enregistrés ailleurs ?
Parce que, non, c'était transmis pendant des générations, c'est transmis de génération en génération entre de maman à fille. Et puis, aujourd'hui, il faut être honnête, cet intérêt-là disparaît petit à petit. Mmh. On a la radio, on a d'autres choses qui se sont mises en place. Et du coup, ça disparaît avec les derniers vieux. Donc, ces gens-là ont décidé d'aller enregistrer pour pas que ça disparaisse complètement.
C'est un lien aussi avec la désertification des villages. Les jeunes qui sont dans les villes, il n'y a plus que les vieux dans les villages.
Vous abordez là peut-être ce qui peut être le sujet d'un prochain festival, mais c'est vrai qu'on commence à se poser des questions autour de l'urbanisation et de la ruralité, ouais. Et voir comment les choses s'articulent autour de ça. Chez nous, en tout cas, voilà, dans notre Occident. Il y a aussi, toujours sur cette idée de transmission, il y a des jeunes qui ont fait un truc assez sympa. C'est des jeunes de Montpellier, d'une petite ville à côté de Montpellier. Ils sont allés voir les anciens chez eux, ils sont allés voir leurs vieux, leurs grands-parents, ils sont allés dans des maisons de retraite, interviewer donc ces anciens sur un peu qu'est-ce qu'ils ressentaient justement de leur relation avec la jeunesse. Et puis après, ils sont allés faire le même travail, mais au Burkina Faso. avec des lycéens du Burkina Faso et des anciens de Bobo-Dioulasso, donc là où ils sont allés. Et donc c'est un documentaire qui, sur ce travail, c'est assez intéressant comme initiative là aussi.
C'est quand même un thème qui ressort beaucoup, la mémoire, en fait, c'est ça, c'est
préserver. Cette année, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'an dernier, donc, on avait fait ce premier festival beaucoup autour de la diversité culturelle, et puis quand les problématiques qui sont souvent mises en avant par quand la culture est menacée, c'est des problématiques de territoire, des problématiques d'éducation, de ruralité ou d'urbanisation exactement. Et puis quand les gens dans le public étaient sensibilisés par l'intervenant, par le documentaire, ils disaient mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Et là il y a tous les intervenants, mais un, notamment un Indien Mi'kmaq, a répondu surtout faites rien, bougez pas. Quelque part, ça voulait dire c'est bon, vous avez déjà assez fait, faites plus rien là. Par contre, renouez avec vos anciens, recréez du lien social chez vous, renouez avec la nature aussi. Et voilà, donc là, on est parti de cette idée-là, de cette idée de l'important, c'est peut-être de créer du lien social, de revenir sur la mémoire d'où on vient, l'importance des racines. Voilà, c'est poser des questions autour de ces notions.
D'accord.
C'est un peu l'idée de ce festival cette année.
D'accord. Donc ce festival, ouais, c'est au niveau local, au niveau de chez soi, et aussi au niveau à travers le monde, des peuples qui sont en train de disparaître ou qui sont.
C'est ça. Moi, c'est
ce que. Un peu isolés du reste du monde.
C'est ça. Bah, ouais. C'est des peuples. Ouais, c'est des cultures qui des disparaissent. Peuplades, ouais. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il m'a fallu, enfin personnellement, il m'a fallu passer par ce reportage chez les Maasai, ce que j'appelle un détour de compréhension pour comprendre
Tant
ce
même.
Qui se passe chez nous.
Ouais.
Mais en fait, ouais. On se rend compte que les problématiques sont assez proches, quoi.
D'accord. Tu peux donner un exemple, par exemple, par rapport à ça.
Alors, il y a un exemple qui est un peu qui peut prêter à discuter. J'avoue que ça me pose beaucoup de questions. C'est pour ça que je le ressors souvent. C'est ce que j'ai en tête. C'est l'éducation. On a chez les Maasai aujourd'hui, donc ils se sont sédentarisés pour rester à côté des écoles. Et dans les écoles, on leur interdit de parler leur langue, qui est le Ma, et ils sont obligés de parler Swahili ou anglais, qui sont les deux langues officielles du Kenya. En France, il n'y a pas si longtemps que ça, on interdisait à nos enfants de parler le breton, le provençal ou je ne sais quoi.
D'accord.
Voilà, et c'est comme ça qu'une culture disparaît, ou en tout cas d'accord. devient...
D'accord. Ah ouais, c'est des problèmes qu'on retrouve un peu partout. Ouais.
Voilà, exactement. C'est des problèmes qui sont assez proches.
Ok. D'accord. Mais les Maasai, c'est quand même une culture très différente de la nôtre.
Oui, quand même.
Je vois des grands gars en train de sauter autour de.
Ouais,
en
ouais,
train de non, faire la fête avant la chasse.
C'est plus dans le fond de la culture.
Alors
c'est
après,
pas
j'ai peut-être des clichés dans la tête.
Non,
quoi,
non, bah c'est. Ouais, alors justement, ouais, il
faut peut-être aussi.
Il y a des clichés, ça ouais. c'est sûr. Mm-hmm. Déjà, ils sont pas grands, ne serait-ce que ça.
D'accord.
On laisse souvent avoir par les photos, mais ils sont pas si grands que ça. Mais bon, moi, je suis 1m85, peut-être que j'ai mauvais point de vue, mais.
Tout est relatif.
C'est surtout que, ouais, moi, c'est ce qui s'est passé. En fait, je suis allé en 2007, c'est comme ça que tout est né. Je suis allé en 2007 faire un reportage sur la création d'une compagnie de danse Maasai. Et je suis parti avec plein de clichés dans la tête. Et quand je suis arrivé sur place, je me suis rendu compte que finalement, la modernisation était passée par là. Les Maasai avec les longs cheveux rouges qu'on voit, qui sont en fait les moranes, les guerriers Maasai, c'est une initiation qui a lieu entre 15 et 20 ans. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins, parce que 15-20 ans, un jeune, où il est au collège. Donc, il ne va pas faire cette initiation-là. Donc, il n'est pas morane. Donc, finalement, ce qu'on vend aux touristes existe
d'accord.
de moins en moins
ouais,
par différents processus. De la modernisation.
C'est ce que tu ressens ou c'est ce que tu as vécu ou c'est ce qui
ça c'est ce que j'ai vécu.
C'est la réalité.
Voilà, ça c'est ce que j'ai vécu. Après, il y a des gens justement qui essayent. Ils ont bien conscience que c'est comme ça. Enfin, les choses évoluent de toute façon et qui essayent de faire évoluer leur culture selon leurs désirs et non pas selon un modèle qui leur est imposé. Maintenant, faut être honnête, c'est difficile pour eux.
Qu'est-ce qui est difficile pour eux de pallier les deux
d'adapter, d'arriver à préserver les valeurs fondamentales de leur culture à travers une modernisation qui arrive de l'extérieur qui ne prend pas en compte ces valeurs-là. Quoi.
D'accord. Donc ça, c'est un exemple. Et donc, par rapport justement à ce peuple Maasai, là, est-ce qu'on peut voir quelque chose
Alors oui, c'était l'année dernière.
Ah, c'était l'année dernière, mauvais exemple.
C'est vraiment le point de départ.
Non, mais par rapport à l'année dernière, justement,
voilà,
qu'est-ce que vous aviez diffusé? C'était un film?
Cette année, on avait déjà, nous, présenté notre exposition l'an dernier et projeté des films sur les problématiques Maasai. Non, cette année, on a décidé justement de sortir un peu de l'image Maasai qui était très présente l'an dernier parce que c'était notre travail, et de présenter d'autres choses. Là, ben, voilà, l'an dernier, on présentait les problématiques. Il y avait un film sur les problématiques rencontrées par les Maasai autour de leur territoire. Cette année, il y a une agence de presse qui s'appelle Sista Brosa, qui est à Aix, qui a fait un travail qui s'appelle Green Card sous les tropiques, qui va être présenté à 18h30 samedi.
Donc samedi le 14, samedi, 14 novembre, d'accord.
Là, pour samedi prochain. Mmh. Et leur travail, ça a été de montrer justement les Pénanes en Indonésie ont les mêmes problématiques que les Maasai, ils se sont fait exclure de leur territoire.
Donc c'est un peuple aussi
ouais. C'est un peuple
qui a perdu leur territoire.
Indonésie,
leur terre.
Qui s'est fait, qui se retrouve sur une parcelle assez infime de leur territoire dont ils n'ont même plus la gestion. En plus, c'est une forêt qui est surexploitée par des compagnies internationales. Et donc, ils sont allés voir leur gouvernement en disant on était là avant, aujourd'hui il y a une loi internationale qui dit qu'un peuple peut revendiquer son territoire s'il était là avant. Donc eux ils y sont allés et évidemment on leur a répondu bah ok, mais prouvez-le. Et donc là c'est un film justement sur une initiative d'une association qui les aide à prouver que c'était leur territoire. Donc avec des GPS, ils vont dans la forêt, ils vont repérer des temples anciens, des marques sur les arbres qui ont été pratiquées par leurs ancêtres et tout ça, c'est daté et c'est pointé sur la carte. Et comme ça, ils sont capables de dire, ben voilà, tout cet espace-là, on y était il y a 500 ans ou il y a 800 ans, quoi.
D'accord. Ah ouais, gros travail, quand même.
C'est un énorme travail qui est fait, ouais. Mais comme quoi, on retrouve... C'est un exemple pour montrer qu'on retrouve ces problématiques un peu partout, finalement, sur... une culture est liée à un territoire et à une langue. Et quand on entame le territoire et la langue, la culture, elle a du mal à rester. Ça devient un folklore, c'est plus vivant, c'est plus attaché à des choses... Voilà.
D'accord. Et vous-même, vous allez sur le terrain aussi ?
J'aimerais plus.
Ah, ouais.
Nous, on avait fait ce travail sur les Maasai l'an dernier. Moi, je suis photographe, donc c'est vrai que c'est des sujets qui m'intéressent, que j'essaye de développer. Maintenant, je fais ça avec mes moyens et à mon échelle. J'avoue que c'est pas très facile, quoi. Là, je vais essayer de retourner, je pense, en début 2010, retourner dans la région où on avait été, voir l'évolution déjà de la région où on était Maasai. Parce que je sais, là il y a eu une grosse sécheresse qui s'est passée, il y avait la venue d'autres communautés qui sont installées à proximité, ça crée de nouvelles problématiques de vol, de viol, de choses comme ça. Donc il faut que je vois un peu comment, voilà, je vais y retourner pour un peu témoigner, essayer de voir l'évolution de cette communauté et voir comment ils arrivent ou pas à préserver leur identité, quoi.
D'accord. Ouais, parce que ça passe par des moments de violence aussi entre les...
Ça peut passer par des moments de violence, oui.
C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui leur a pris les terres.
En fait, les Maasai, c'est vrai que moi je parle beaucoup des Maasai.
Pas pour les Maasai ou en général.
Ça dépend, ça peut être... Les Pénanes, par exemple, ils sont sur une terre qui a été récupérée par les gouvernements et qui est surexploitée par les exploitants forestiers. Les Indiens Mi'kmaq, donc il y a Robert Steven Crow qui va venir nous parler, là c'est dimanche, après-midi à 19h.
D'accord.
Qui va venir nous parler des problématiques rencontrées par les Indiens algonquins au Québec. Donc le Québec, pareil, ce qui s'est passé, c'est assez intéressant la façon dont il explique comment les choses ont progressé, c'est-à-dire qu'il y a eu une incursion à une époque, il y a eu une incursion militaire des colons qui ont repoussé les Indiens à l'intérieur des terres, et puis à un moment, ça s'est stabilisé, et là, ils ont dit, on signe un traité. Et puis, ils signent un traité, chez nous, c'est là, chez vous, c'est là, et jusqu'à ce qu'il y ait des éclaireurs qui repoussent encore et puis hop, ça réavance et boum, on re-signe un traité. Et petit à petit, comme ça, ils sont arrivés à manger sur toutes les terres. Et c'est assez marrant parce que c'est la règle du football américain quand même. C'est on pousse et puis d'un coup, on arrête tout, hop, on remet tout à plat et on repart et on repousse.
Bah, c'est le problème qu'ont rencontré les Indiens d'Amérique aussi. Ça...
Exactement. Ouais, c'est des mêmes problématiques qu'on retrouve partout.
Ouais.
Sur les Indiens d'Amérique, les Indiens des plaines, parce qu'il y aura... dimanche à 14h, on fait une table ronde et on a invité...
Il y a deux dimanches, donc le 15 ou le 22 ?
Dimanche, pardon, 22, oui. 22 dimanche 22 novembre à 14h pour un peu conclure et pour essayer d'avoir... De ressortir les idées principales du festival. On a invité plusieurs intervenants à venir discuter autour de cette notion justement de transmission de mémoire. Et il y a un des intervenants qui s'appelle Jean-Michel Vizaine, qui est un Français qui a des échanges assez réguliers avec les Sioux. Ça doit être le seul Français
avec
à parler Sioux.
Ah ouais.
Et c'est un musicien qui s'inspire de la musique Sioux, il s'inspire de son vécu. En même temps, il a des actions pour faire perdurer la culture Sioux dans les prisons du Lakota où il y a énormément de Sioux qui sont enfermés.
D'accord.
Et voilà, donc lui est capable, de plus que moi, de parler des problématiques de territoire chez les Sioux, de l'histoire qui les a menés à se retrouver enfermés dans des réserves où il n'y a aucun moyen de subsistance économique. Alors, on parle de l'alcoolisme des Sioux, mais il faut savoir que voilà, ils peuvent rien faire. Il n'y a sur des kilomètres carrés de leur réserve, il n'y a rien, sauf à l'entrée et à la sortie de réserve, une station-service qui vend de l'alcool.
D'accord.
Donc automatiquement, ça...
Ben ouais, ça limite les sorties, les
possibilités
divertissements.
De s'épanouir, ouais.
Surtout que c'est pas un peuple qui supporte l'alcool, ça, si on regarde l'histoire.
Et... apparemment, ouais. Alors ça, ouais. J'avoue que je suis pas très au courant. Mais,
ben, mais ça, c'est l'espèce humaine, en fait. Nous, on supporte, les Blancs supportent plus l'alcool et eux, ils supporteraient plus ce qu'ils fumaient dans leur calumet.
D'accord.
De la paix, quoi. Donc, après...
Mais ça, je suis pas très au courant.
Ouais, non, ça, c'est...
mais c'est vrai que oui, j'ai entendu dire ça une
ouais,
fois.
Ouais. Ouais. Et voilà, pour revenir donc alors sur deux semaines, donc je suis avec Antoine. Bah écoute, on va faire une pause musicale,
ouais.
On va revenir parce que je voulais aussi parler en fait du développement durable parce que c'est la solidarité internationale.
Ouais.
Donc vous êtes dans ce contexte-là.
Alors
de...
nous, on s'inscrit voilà dans la semaine de la solidarité internationale.
C'est toute une semaine.
C'est une semaine qui est, oui, alors nous voilà, on s'inscrit, mais on dépasse un petit peu.
Ouais.
C'est une semaine.
Et en fait, c'est le mois de la solidarité et... aussi.
Ouais, alors il y a aussi ça, oui, le mois de la solidarité. Bah voilà, comme ça, on s'inscrit dans le mois de la solidarité.
Ouais, donc c'est le mois de novembre là. Sachez-le, c'est un mois où il faut être solidaire. Hein. Les autres mois, on reste chez soi.
Il y a pas mal d'actions qui sont faites,
la
ouais, d'initiatives qui sont faites pour mettre en avant les actions, les initiatives solidaires. Quoi.
Ouais. Bon, et on va s'écouter un petit morceau de musique et puis on revient tout de suite juste après.
Okay.
Started all over again. Rebuild the world, yeah right, no thank you. We're gonna have the chance to make it something new. Looking at the stars, I feel like I wanna vomit. It's dust to dust and I can't do anything about it. Look at it, it's the end and we all know it. It's written in the lines of our hands and we still ignore it. Gotta admit, things are always what they seem. I have a dream for sure and it's just a dream. Just contemplate what's left of our fallen empire. Kids are gonna love about our dead desire. I have a dream and I have it often. I wish I could have the keys of some kind of heaven. A place up high, so I wish I could spit at you. Destroy your fucking fences and break it through. The walls, the bars, and now we'll be protection shit. Ashes to ashes, what you gonna do about it? Look at it, it's the end and we all know it. It's written in your hands, but you forgot about it. I gotta admit, things are always what they seem. I have a dream for sure, and it's just a dream.
creek of my brain bubbling. I don't know, man, I can't see nothing. Wait a minute, I think I can hear the bass drum playing. Shaky, shaky, y'all, the walls are tumbling. Is that an earthquake of my brain bubbling? Let me tell you, whatever happens this evening, I'm gonna keep on stomping, keep on spinning. Can't you hear the big foot stomping? Boom! We're a hit on a crystal glass. The shock will hit this place like a landslide. We'll get you all dancing side to side to side. With that genius who would save the planet. With the brass band of the future, we don't exist yet. We're a hot chick with an extra triple nipple. A giant one, I mean not little. What's that? It's like a storm in your ear. Might be an atomic bomb somewhere near. We don't give a fuck, there is no time for fear. The end of the world, nah.
Voilà, c'est toujours l'émission L'Attendant la Bombe, comme tous les mardis à 17h. Là, c'est pas le tour de l'agenda culturel, ce serait plutôt le tour des alternatives du mois de la solidarité au mois de novembre. Alors, je suis toujours avec Antoine de l'Alternative Positive, mais de cette association, on pourrait dire, qu'est-ce que tu fais, ton rôle dans cette association exactement? Tu fais la communication,
ouais, alors là, nous,
t'es animateur,
on est une toute petite association.
T'es un explorateur.
En réalité, on a monté ça, on est deux au départ, et on se fait aider par un groupe de copains qui nous aident pour la préparation du festival, les relations, la communication, tout ça, mais... Au départ, on est deux, donc Yannely Ponce et moi. Donc,
d'accord.
Qu'est-ce que je fais?
Bah, tu fais tout, quoi.
Un peu tout, ouais.
Ah ouais, qu'on n'est pas beaucoup, on est obligé de tout faire. Ça, c'est...
Voilà, c'est ça.
C'est bien dans un sens et puis c'est moins bien dans l'autre, quoi.
Ouais,
comme
bah,
ça,
bon,
tu
moi,
peux
on maîtrise tout, après...
Ouais, voilà, voilà, puis s'il y a une erreur, c'est pour ta gueule, quoi.
On peut se taper dessus, c'est...
Voilà. D'accord. Alors, de l'alternative positive, donc le festival. Alors, ça rentre dans un cadre, là. On a commencé à en parler, puisque là, j'ai communiqué de presse, c'est dans le développement durable.
Oui, dans le cadre de la solidarité internationale.
Ouais.
Ouais, mais c'est une semaine qui est organisée au niveau national du
14 au 22 novembre.
Ouais, voilà, du 14 au 22 novembre. C'est une semaine où... qui me permet un peu au niveau local à toutes les initiatives à la fois au niveau local et national d'être mis en avant, et notamment à toutes les petites associations justement de pouvoir un peu faire valoir leurs actions, parce que c'est pas évident quand on fait, je sais pas, il y a des petites associations qui ont des initiatives du type aide à l'écriture, du type collecter des
alphabétisation, quoi.
Voilà, alphabétisation au niveau local, au niveau international, de collecter de la nourriture pour aller à l'étranger. C'est rare qu'ils prennent les moyens de communiquer, de se faire connaître. Donc là, c'est un peu l'occasion pendant une semaine de les mettre en avant. Ils ont accès à... On a accès à à l'aide au niveau de la communication de cet organisme, la Semaine de la Solidarité Internationale. Voilà, c'est un peu l'occasion, je dirais, de mettre en avant des actions qui, en temps normal, sont pas très mises en avant.
D'accord.
Ils ne prennent pas le temps de communiquer non plus.
D'accord. Et voilà, alors c'est en fait organisé par le CODES, le Collectif Développement et Solidarité.
Voilà. À Marseille, il faut se rapprocher. Alors au niveau local, le CODES c'est au niveau
national,
et au niveau local, il faut se rapprocher
du CDATM,
de documentation, voilà,
d'information spécialisée
et d'information du tiers monde, qui est en haut des réformés.
Ouais,
rue,
ça je sais pas.
Je sais plus la rue exactement, mais c'est en haut des réformés, un petit truc qui monte en haut des réformés là. Et là, ils ont toutes les, voilà, c'est eux qui portent ça au niveau local, quoi.
D'accord. Donc il
y a une dame là qui est pleine d'informations, pleine d'aide pour soutenir les actions, soutenir les communications et tout ça.
Bah, c'est des problématiques qu'on retrouve un peu partout, donc les problèmes d'eau, puisque
voilà.
On sait que l'eau potable va devenir de plus en plus rare sur la planète, et ça va enchaîner sur des migrations, des peuples. Qui sont des gens, des habitants de certains pays qui, à cause d'un manque d'eau, vont être obligés de migrer. Donc ça sera au lieu d'une migration économique, plutôt une migration écologique qui nous attend, en fait, hein,
ouais,
court terme.
À fait.
Donc il y aura plus de... Justement, les problèmes de migration qu'on trouve maintenant, je crois, ils vont être de plus en plus amplifiés. Et c'est vrai qu'il faudrait trouver des solutions, quoi. Pas seulement assécher les cours d'eau pour faire des lacs, des gros barrages, voilà, et pour empêcher justement ces peuples-là, c'est eux qui doivent le plus en subir les conséquences.
Tous, hein. Ces peuples, ouais, moi,
ces peuples premiers, là. C'est...
Moi, j'ai un
Est-ce
exemple
que ça
par rapport à l'eau, par exemple. Je sais que j'ai un au niveau de... Bah, chez les Maasai, il y a... Quand on achète des roses en Europe, il faut savoir que la grande majorité de ces roses proviennent du Kenya. Il y a une région du Kenya, c'est des immenses serres où poussent des je ne sais pas combien de tonnes de roses par an. Et pour arroser, donc au Kenya, vous imaginez l'eau qu'il peut y avoir, pour arroser.
Il y a de l'eau au Kenya, non ? Il y a
ouais,
des grands lacs.
Un petit peu, mais enfin, faut peut-être pas pousser non plus.
Ah, il n'y a pas des grands lacs là-bas.
Si, il y a la région des grands lacs. Alors là, en l'occurrence, c'est dans une zone, dans des grandes plaines qui il y a une nappe phréatique, mais le problème, c'est que pour arroser ces roses, ils pompent tant qu'ils peuvent dans ces nappes phréatiques. Résultat, ça assèche les cours d'eau, ça assèche toute la région, et les Maasai qui vivent dans cette région ont de moins en moins d'eau. Alors au départ, il y a de l'eau effectivement, mais bon, ça dépend comment elle exploite aussi.
Ouais. Voilà, donc c'est pour dire que vous rentrez dans ce cadre-là. Bon, voilà, on va pas plus détailler par rapport à. Enfin, voilà, c'est les problématiques que je vois dans ce communiqué de presse qui est réalisé par le CODES.
Il y a un site internet de la Semaine de la Solidarité Internationale, ça se trouve facilement sur Google, où il y a toutes les initiatives au niveau national et au niveau local. Qui sont posées. Donc il y a notre festival qui est là-dedans.
Niveau local, vous représentez, vous êtes le représentant local de cette manifestation.
Non, on s'intègre dedans.
Vous intégrez, donc il y aura d'autres choses.
Une des manifestations, je sais par exemple. Qu'il y a Santé Sud qui fait une action à la Timone le samedi 14.
D'accord.
Voilà, il y a plusieurs initiatives qui sont portées par cette semaine. Nous, on en fait partie. On est une des initiatives.
D'accord. Ok. Donc, on va revenir un peu sur cette initiative que vous proposez pendant une dizaine de jours. Ça débute jeudi 12 novembre.
Voilà, ça débute jeudi
avec
soir.
Après-demain,
tout à fait.
Avec un pot d'ouverture, il faut bien commencer.
On commence par un verre, on s'est dit que c'était assez sympa.
Je vois que tous les festivals commencent comme ça.
C'est aussi quelque chose de convivial. Quoi.
Alors, on va boire de la bière bio. Mais ça se passe où alors ? Exactement.
Ça se passe à la baleine qui diva.
À la baleine qui diva, d'accord. Principalement, c'est centré sur un quartier.
La plupart des événements sont centrés sur un quartier, voire sur ce lieu.
Sur la plaine.
Je sais pas, je vais peut-être vous dire tout de suite ce qu'il n'y a pas plutôt à la baleine qui divague, comme ça.
Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont passer à la baleine qui divague.
Est à la baleine qui divague, sauf la rencontre avec Pierre Rabhi, on en reparlera, qui est le samedi 21 novembre, qui a lieu au cinéma du Prado. Le matin à 10h.
Ah, 10h.
Okay. Et toujours le samedi 21 novembre à 14h30, il y a la pièce Parole de jeunes ou Le rêve des anciens qui aura lieu au collège ISO à 14h30, je crois que je l'ai dit. Voilà. À part ces deux événements qui sont le samedi 21, tout est à la baleine, ou tout est dans le quartier en tout cas. Et on a le 13 novembre, donc vendredi là. C'est le travail qui a été fait par Émilie Cantagrel, un travail photographique qui est exposé à l'Ustoda au Pays. C'est rue des Trois
Rois ou des Trois Mages.
Ou Trois Frères Barthélemy, je les mélange tout le temps.
Ouais, ouais. C'est rue des Trois quelque chose.
J'habite là depuis longtemps. Mais...
Ah ouais,
et
même pas moi.
Et après, qui se suit après à 21h30 par un concert de musique traditionnelle de Campanie et de Calabre.
D'accord.
Là, ça va être un truc assez festif et assez sympa. Je pense que c'est un truc où.
C'est un peu dans l'ambiance de l'Ustao do Pais.
Exactement. Ça va être une grosse fête à l'Ustao. Pour ceux qui connaissent, ils imaginent ce que ça peut être. Et ouais, non, ça peut être assez sympa. C'est l'occasion justement de. Qui est à la fois une découverte d'une culture par les photos et à la fois le côté festif pour un peu...
C'est toujours ce qu'il faut dans de tels dispositifs, c'est un mélange entre justement ce qui est festif et ce qui est informatif, ce qui est plus...
Tout à fait, c'est avant tout vivant. Nous, on essaye de mettre en avant des cultures qui sont des cultures vivantes. La fête est omniprésente, donc donc c'est dommage de passer à côté quand même.
Tout à fait, ouais, d'accord.
Voilà, donc on essaye là de mettre ça. Donc là, il y aura ce concert... qui à mon avis va être un beau bel événement là vendredi. Je continue alors.
Tu
parcours rapidement le
programme.
Samedi 14 novembre, donc on a à 14h, il y a Esmeralda Romanez qui vient nous présenter 1000 ans d'histoire Rome, Manouche, Calais, Sinté, pour pas rentrer dans les problématiques de nomination de ce peuple, Zigane, en Rome. Et savoir comment on les appelle. Elle va nous expliquer tout ça. C'est suivi après par une présentation de la rencontre des peuples indigènes qui a eu lieu dans le Var. Qui est une rencontre de différents peuples. Donc là, ils vont venir nous parler un peu de ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a le film Green Card sous les tropiques dont je vous ai parlé
au début. On en a parlé juste après. Avant,
à 18h30, qui est sur ce peuple Pénan et cette solution qu'ils ont de cartographier leur territoire avec des GPS et en cherchant les traces de leurs ancêtres. Et suivi par un spectacle. Alors, Conte et conflit
armé
en Colombie.
Ah, c'est un spectacle, ça ? D'accord.
Ouais, en fait, c'est une Française qui était en Colombie pendant quelques années, là, quelques temps.
Ouais.
Et qui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Colombie, ils sont assez... comment dire ? Il n'y a pas une liberté d'expression quand même faramineuse.
Ouais.
Et elle s'est rendue compte que dans les universités, les étudiants faisaient revivre les contes traditionnels. Et à travers ces contes traditionnels qu'ils réécrivaient, ils parlaient de toutes les problématiques actuelles de la Colombie. C'est une façon, en fait, de faire du journalisme sans écrire dans
faire,
des journaux
ouais.
et
ouais.
sans risquer de se faire flinguer au premier coin de rue.
Ouais, ouais. On dénonce voilà. Par les seules voix qui nous restent, c'est-à-dire la poésie, l'art,
et ouais, et
la musique.
Et en plus, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, en faisant ça, ils reviennent à un moyen d'expression traditionnel. Le conte était
ouais, en plus,
dans
ouais.
toutes les cultures, mais
dans toutes les cultures,
bah
ouais.
Oral
qui a toujours existé
contre le calife, contre le
ouais,
chef,
ouais,
contre
ouais,
le
ouais.
roi. C'est, le conte, c'est on pouvait dire un peu ce qu'on voulait dans un conte. Et aujourd'hui, ça, c'est ce qui se passe en Colombie. Donc
puis,
là, ils vont venir nous faire ce spectacle. C'est un conte et un spectacle, une conférence contée. Enfin, c'est un peu une forme un peu transversale entre un Colombien.
Pardon,
et cette Française qui vont nous expliquer, qui vont voilà, nous présenter un peu la place du conte. Il y aura aussi des contes. Enfin, voilà, il va y avoir un peu un va-et-vient entre eux. C'est assez original comme proposition.
D'accord. Ah ouais, ça a lieu à la
baleine. Ça, c'est à la baleine, toujours.
Ouais.
Toujours
d'accord,
à la baleine
bon,
qui divague.
Voilà.
Dans
si
la plupart
aller,
des événements. Quoi.
D'accord. Okay.
Le lendemain,
donc
le
dimanche 15 novembre.
15 à 14h, on propose à la baleine qui divague, on projette le film Renouveaux indigènes. On l'avait projeté l'an dernier, mais il nous paraît très intéressant de le reprojeter parce que c'est vraiment un film qui balaye toutes les problématiques rencontrées par les peuples premiers. Donc quand on ne connaît pas ou quand on ne sait pas trop de quoi on parle, ou quand c'est assez intéressant parce que ça permet d'avoir une vision assez globale sur qu'est-ce qui se passe sur la planète pour ces peuples, qu'est-ce qui menace ces cultures et aussi quelles sont les initiatives qui prennent.
D'accord.
Enfin, c'est à la fois très positif tout en posant des problèmes quand même assez lourds. Voilà, pour ceux qui s'intéressent et qui ont envie de creuser un peu, c'est assez intéressant pour avoir une vision, un point de départ, je dirais.
Mais ça concerne tous les peuples sur la planète ?
Oui,
ou
ça balaye.
On
reparle des Maasai, on va parler
des
Peuls, on va parler des Amérindiens, on va parler de plein de peuples à travers la planète. C'est une association qui s'appelle ICRA International qui a réalisé ce film et pour justement mettre en avant les problématiques. Donc c'est à la fois optimiste parce que il parle d'un renouveau, il parle d'un retour, je dirais, de la vie, de la culture, de la fierté d'appartenir à une culture, et en même temps, mais il présente quand même toutes les problématiques que les cultures rencontrent aujourd'hui. Donc, mais c'est, je sais pas combien de peuples sont
concernés,
sont
à
concernés
peu près tous,
et sont
hein,
présentés
apparemment...
dans ce documentaire. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que ça permet d'avoir cette vision globale.
Cette
des
vision
choses.
Globale, ouais, déjà, ouais, pour les gens qui connaissent pas,
exactement.
Qui sont pas concernés, enfin, qui sont intéressés, mais qui connaissent pas plus que ça le
voilà.
problème, d'accord, des peuples
exactement.
Premiers.
C'est assez intéressant, donc on tient à le représenter. Après, à 16h, on a un atelier d'herboristerie, c'est une indienne Mi'kmaq qui vient nous présenter l'herboristerie au quotidien. Elle va réadapter en fait ses connaissances à notre environnement, je dirais, de plantes. C'est suivi d'un film qui s'appelle Le Peuple Invisible sur les problématiques de territoire des Indiens algonquins, j'en parlais tout à l'heure,
à
19h. Voilà, ça c'est pour la première partie. Le mercredi, on a mercredi 18, on a
le
une journée
enfant,
un coin enfant. C'est des ateliers, alors c'est plutôt réservé pour les enfants quand même, mais c'est des ateliers pour les enfants qui ont lieu toute la journée.
D'accord.
Et ça reprend pour...
toujours avec une thématique...
toujours
rejoint
autour cette thématique de découverte des peuples. Alors,
on ne
va peut-être pas rentrer dans les grosses problématiques pour les enfants, parce que...
Bah ouais, non,
mais quand même, on
ne
passe
quand même,
pas à
ouais,
côté
on,
non plus.
Bah non,
on est là pour
éveiller,
répondre aux
hein,
questions et pour les éveiller
tout
à tout
ouais.
ce qui se passe. Quoi. Et tout ça à travers des ateliers. Donc, il y a des ateliers de coloriage, des ateliers de contes, des ateliers de fabrication de coiffes indiennes... il y a eu la découverte d'une exposition. En fait, tout ça, c'est animé par l'école Bellevue, qui est à Félix Piat.
Ouais.
Et c'est une école qui est menée, donc la directrice Verature emmène depuis plusieurs années maintenant ses enfants.
ses élèves.
Ses élèves. Pour découvrir. Alors, ils sont allés en Afrique du Sud, ils sont allés en. Donc, les Quechua, ça doit être en Colombie, ils sont allés en.
Avec les élèves ?
Avec les élèves, voilà, elle a fait bien. Pas mal. En fait, je crois qu'aujourd'hui, elle a fait les 5 continents et à chaque fois, en rentrant, ils font un carnet de voyage qui s'appelle sur la route 2. Donc, il y a la sur la route des Inuits. Donc, elle a dû aller au
pôle Nord, on peut le suivre.
Pôle Nord, Groenland, je sais pas où. Donc, là, je m'avance peut-être beaucoup. Mais...
Ouais.
Donc, elle est en Alaska, voilà, je vais y arriver.
Ouais, en Alaska. En Alaska. Ouais. Ouais.
Donc elle a fait sur la route des Inuits, sur la route des Quechua, sur la route des Cossa. Et cette année, ils sortent un carnet qui s'appelle, le nom m'échappe, mais qui est sur Marseille. Parce qu'à chaque fois qu'ils allaient découvrir d'autres peuples,
ils sont... ils étaient à la fête du plateau.
On leur demandait de parler de Marseille. Donc du coup, aujourd'hui, ils ont ce livre.
Mais il y a l'exposition à la Baleine qui y va.
Il y a une exposition.
Dans le cadre de la fête du plateau, ils y étaient déjà.
Et voilà.
Ouais,
c'est ça. En fait, l'ouverture de l'exposition, l'exposition, c'est... On a voulu mettre en avant cette exposition. Et la Baleine nous a proposé de l'exposer dès l'ouverture de la fête du plateau. Ça permettait de lancer l'exposition et de lancer les problématiques de notre festival. Alors c'était un peu en dehors du festival, mais c'était quelque chose qu'on voulait mettre en place.
Puis déjà c'est déjà s'est mis en place, ça fait quelque chose à moins à faire parce que le jour du festival il y a toujours.
On décroche l'exposition mercredi.
Ah vous la décrochez, d'accord.
Donc, c'est jusqu'à mercredi pour cette journée enfant. Partir de jeudi il y a une autre exposition, ouais. Donc ça me permet de faire le relais avec ce qui se passe après.
Ah jeudi j'ai rien moi, j'ai vendredi 20 novembre.
Non voilà, mais c'est en fait le vendredi on fait le vernissage de cette exposition, donc il sera accroché à partir de jeudi, mais on fait le vernissage vendredi une exposition qui s'appelle Mémoire des créneaux. Et c'est un travail qui a été fait par Samy Adris. C'est un travail de dessin qui a été fait en parallèle de collectage de récits par l'association Cri Écrit. C'est des dessins sur les créneaux.
Les créneaux.
Les créneaux qui étaient un quartier de Marseille, une cité de Marseille qui a été réhabilitée.
Ouais, tout à fait.
Et donc Cri Écrit et Samy Adris sont allés sur ce quartier et sont allés interviewer les habitants avant qu'ils soient délogés, relogés et avant là, le changement de ce quartier.
Là, c'est un vernissage. On écoutera du son ou on va voir des photos?
Non, alors il y a d'abord une première partie, c'est une présentation par l'association Cri Écrit de leur travail. Donc il y aura Nora McMouche, la présidente.
Ils ont collecté comment, sous quel support les...
Ah, ils ont des supports audio ils écrivent un livre. Il y a un livre qui existe qui s'appelle Mémoire des créneaux, qui est illustré par Samy Adris et avec les textes qui ont été collectés auprès des habitants.
D'accord.
Okay. C'est vrai que c'est peut-être pas très clair, mais...
Non, mais ça va.
Donc ça, c'est la soirée de vendredi, à partir de 19h jusque plus tard. Il y a, on met en avant cette initiative-là. Sachant que Créécrit fait ce travail dans d'autres quartiers, a fait un travail comme ça sur les femmes de la Belle de Mai, par exemple, sur les ouvrières de la Belle de Mai. Ils ont fait un travail qui était ici, d'ailleurs. Mais qui était ici d'ailleurs, oui.
À la Belle de Mai.
Mais qui était
à la Friche.
À la Friche, en fait. Ah. Ils travaillaient les ateliers Saïta.
D'accord. Ah ouais, les ouvrières qui travaillaient.
Les ateliers Saïta.
Ouais, c'était ici. On y est. Donc, c'est historiquement, on est dans les ateliers Saïta.
Donc ils ont fait un travail avec. Ils sont allés revoir les anciennes ouvrières de Saïta et ils ont qui racontaient un peu le quartier à cette époque, tout ça, quoi. Moi je trouve que c'est une initiative qui est assez intéressante, justement quand on parle de mémoire, transmission.
Ah ouais, tout à fait.
C'est d'aller voir des gens qui vont. On peut pas tous aller voir tous les anciens, c'est pas possible, mais là il y a ces gens qui vont voir des vieux avant qu'ils partent avec leur mémoire. Il y a des cultures où on dit quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est un peu ça, c'est avant que ces gens-là partent, on écrit leur vécu, leur
surtout
mémoire.
Surtout que, comme on me disait tout à l'heure, avant la transmission se faisait de génération en génération. Là, les générations, il y a eu un gros fossé de génération où les enfants sont partis, ils ont dépeuplé.
Ouais, et puis il y a l'exode, il y a l'exode rural, il y a un problème, il y a l'éducation qui à un moment s'équilibrait bien et aujourd'hui c'est un peu difficile. Aujourd'hui, quand vous allez voir un vieux, vous en savez souvent plus que lui sur pas mal de choses. Donc il y a une espèce
de
fossé qui se crée parce que finalement on n'est pas très intéressé par ce qu'il a à nous raconter parce que on apprend pas mal de choses à l'école et puis dans la vie et ça va beaucoup plus vite que papy qui raconte ses histoires. Mais en même temps, on passe à côté de beaucoup de choses. Il y a un équilibre à retrouver par rapport à ça.
Ça
c'est une des choses possibles, cette association qui fait ces collectages, c'est assez marrant.
D'accord.
Assez intéressant.
Donc ça c'est vendredi 20.
Ça c'est vendredi 20 et samedi 21 à 10h du matin au cinéma du Prado. Mais alors je conseille à ceux qui nous écoutent de venir bien avant 10h parce qu'il va y avoir
beaucoup de monde.
Et la salle n'est pas si grande que ça.
Au cinéma du Prado ?
Hein ? Oui, c'est la grande salle du cinéma du Prado qui fait.
C'est pas le cinéma Madeleine, c'est au Prado, Rond-Point du Prado ?
Cinéma du Prado qui est
tout au fond. Vers le stade.
À côté du Quick, non, ça c'est le Chambord.
Ah oui, c'est le Chambord. Ouais.
Non, le Prado, il est.
Ah ouais, d'accord, d'accord. Oui, d'ailleurs, je le vois.
À côté du Quick.
À côté du Quick, ouais.
Donc, ça, c'est le cinéma du Prado accueille en fait depuis le début, depuis qu'on fait des choses, il accueille nos documentaires, d'accord. Il accueille nos intervenants. Le directeur actuel est très. Très partant sur toutes ces dès qu'on lui propose des choses, enfin on a voilà, il est super quoi, il nous accueille à chaque fois. Donc là il accueille la venue de Pierre Rabhi. Alors Pierre Rabhi est un
philosophe,
auteur, philosophe, conférencier, plein de choses. Il est agriculteur avant tout, je pense. C'est un monsieur qui dans les années fin des années 50, début des années 60, avant la grande folie retour à la terre, est parti a quitté son Paris où il était à ce moment-là. Je vais pas faire toute sa biographie, mais enfin, il s'est installé en Ardèche où il a développé une agriculture à la fois écologique et à la fois sur un endroit. Il appelle ça un son caillou parce que c'est un endroit qui était complètement inexploitable. Et puis petit à petit, il est arrivé en utilisant les techniques des oasis à faire vivre, à produire sur ce lieu, et puis à produire une agriculture écologique. Du coup, il est devenu. On a commencé à le contacter pour conseiller d'autres personnes sur ce type d'agriculture qui respecte l'environnement et qui respecte aussi les équilibres naturels. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui intervient. Qui crée des chantiers en Roumanie, qui en a créé au Burkina Faso. C'était un conseiller de Sankara à l'époque, avant qu'il se fasse abattre. Il a créé des chantiers aussi, où il va en créer, je crois, au Bénin. Il y en a plusieurs en France. Il fait de la formation pour les agriculteurs en agriculture écologique, ou pour les particuliers aussi. Enfin, c'est quelqu'un qui est partout à la fois et qui est vraiment super intéressant, qui écrit plusieurs livres écologiques, qui est un des grands noms de l'écologie aujourd'hui, et qui en même temps n'est pas nécessairement friand des grands médias, quoi qu'on commence à le voir pas mal, mais... Voilà, enfin, c'est vraiment un grand homme à écouter. Pour nous, c'est un peu notre ancien qui vient justement nous transmettre son expérience de vie et son savoir.
D'accord, donc ça
c'est dimanche à 10h.
Samedi 21 novembre à 10h au Prado, au cinéma Le Prado.
Voilà, mais ça il vaut mieux arriver en avance parce qu'il y a pas mal de gens qui le connaissent, pas mal d'accord. de gens qui vont venir et la salle fait un peu plus de 300 places et je pense que ça risque d'être juste. Donc il vaut d'accord. mieux venir assez en avance.
Ok.
Il y a au collège ISO, il y a la pièce de théâtre Parole de jeunes ou Le rêve des anciens par la compagnie Pachamama. Alors en fait, Pachamama, ils ont fait, donc c'est eux qui présentent Tierra Madre le premier soir, le jeudi 12 à 19h, qui présentent donc ce Parole des jeunes ou Rêve des anciens samedi 21 à 14h30. Et ils créent aussi un CD sur les paroles. Des Indiens Lakota, tout ce triptyque en fait s'appelle Tierra Madre. Voilà, donc ça, ce sera samedi 21 à 14h30 au collège ISO, et samedi 21 toujours à 16h30, on enchaîne avec Tempo da Recoleta. Donc c'est le documentaire dont je parlais tout à l'heure sur ces jeunes qui vont faire du collectage de chants en Espagne, chez les personnes âgées en Espagne, en campagne, pour garder ces chants avant qu'ils disparaissent. Et derrière, c'est enchaîné sur à 18h Nikema, un documentaire sur les jeunes qui ont fait ce travail auprès de leurs anciens, leurs grands-parents en France, et qui sont allés faire ce travail ensuite au Burkina Faso, de voir comment était la relation entre les jeunes et les vieux en France, et comment était la relation entre les jeunes et les vieux au Burkina.
D'accord. Et ils ont vu des similitudes, des différences.
C'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce qu'on voit chacun, parce que c'est plusieurs lycéens, et il y a des scènes super parce que c'est assez différent. Quoi. Les vieux sont beaucoup plus respectés en Afrique que chez nous.
J'imagine. Ouais,
et on se retrouve avec un directeur d'école à un moment. Donc pour un jeune lycéen, un directeur d'école, ça, c'est quelqu'un de très respectable, qui explique que donc il y a une quarantaine d'années, et qui explique que lui ne prend aucune décision sans en référer à son père tant que son père est vivant. C'est hallucinant. Il y a une fille à côté qui en revient pas, qu'un directeur d'école puisse avoir besoin de son père, alors qu'elle, j'imagine, en tant que lycéenne, se dire les parents, au contraire, on essaye entre guillemets de s'en affranchir le plus rapidement possible, et qu'il y ait ce monsieur de 40 ans, directeur d'école, qui dise j'en parle à mon père avant chaque décision. C'est un grand choc. Et puis tous les jeunes lycéens qui disent, lycéens au Burkina, qui disent jamais on ne contredirait un ancien, on parle pas avant qu'il nous ait donné la parole, etc.
Ouais. Les traditions sont restées
c'est
très
assez
ancrées,
marrant, quoi. Ouais, c'est encore très fort.
Est-ce que c'est plus mal, est-ce que c'est pas plus mal, ça
C'est des questions. Honnêtement, ouais. Moi, je réponds peu parce que j'ai
ouais, c'est difficile
idées,
à trancher.
Je c'est très difficile
ouais,
parce
très
que.
Difficile.
Mais enfin bon, quand même, il y a des problématiques aujourd'hui dans notre société qui, à mon avis, sont liées à ça.
Ouais,
après, il faut
ouais.
pas oublier qu'il y a d'autres
ça,
problématiques
ouais.
dans ces sociétés-là,
ouais.
que ce soit sur la place de la femme, que
ouais,
ce soit
ouais,
sur...
exactement,
qui
ouais.
pose des
ouais.
questions aussi.
La
donc...
place de l'aîné par rapport à la place du cadet, de la sœur
voilà.
par rapport au frère. Après,
tout,
on
tout,
rentre dans ces problématiques-là.
Tout ça, c'est bon. Tout ça, ça se discute, ça se questionne. Mm-hmm. C'est... Mais bon, on se rend compte quand même qu'il y avait un équilibre. Il y a un équilibre dans ces sociétés, qui a moins chez nous quand même. On a une perte de sens, on trouve. Enfin, moi, je trouve chez nous qui fait que bon, c'est voilà.
Mmh. Mais, ouais, non, mais
c'est des questions. Non,
ouais, on va pas développer dessus. Mais
voilà,
on
peut en parler. C'est
on pourra en parler.
Je préfère en parler autour d'un verre que comme ça. Mais...
Non, mais de toute façon, ça sort un peu
du
cadre
temps,
de l'émission.
Mais
c'est vrai que c'est un
mais
grand
c'est des questions.
Débat,
le festival, avant tout, c'est de réveiller un peu les consciences, de réveiller un peu les gens. Enfin, quand on est un peu confort, j'irais dans notre modernité en se disant, mais il y a que ça comme solution. Non, il y a pas que ça. Il y a d'autres façons de vivre. Il y a d'autres gens, d'autres cultures, d'autres façons d'approcher le monde.
Le principal, c'est de savoir qu'il y a d'autres façons de vivre, d'autres traditions.
Ça veut pas dire que les autres sont meilleurs.
Exactement,
ou moins bonne ou parfaite, c'est juste que voilà, il y en a d'autres et c'est la diversité
et de les respecter déjà, c'est déjà les accepter donc avant de pouvoir de les juger ouais.
Voilà ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Donc pour ça, j'ai un peu du mal à répondre aux questions, mais
voilà.
Voilà, il y a 21h, il y a un conte du pays des hommes intègres, donc c'est Irénée Carfazo Dombouet qui était un conteur du Burkina justement, qui est dans le documentaire dont on parlait juste avant et qui viendra nous présenter là des contes traditionnels de Bobo Dioulassou du Burkina Faso. Voilà, pour un côté un peu plus, je dirais, reposant, mais c'est toujours une façon de parler quand même des traditions et des cultures.
Donc toujours à la baleine qui divague.
Toujours à la baleine qui divague.
Voilà.
Et dimanche, on
donc la clôture.
Finit avec une rencontre Colibri. Alors Colibri, c'est une association qui a été créée par Pierre Rabhi, donc cette personne qui intervient le samedi 21 à 10h. Et cette association, ce qu'il est... Son objet, c'est de mettre de faire se rencontrer des initiatives locales. Donc, on y revient. C'est-à-dire que Pierre Rabhi, donc ce monsieur qui voyage dans le monde entier, il s'est rendu compte de quelque chose, c'est que ben, il faut développer le local, aussi bien au niveau agricole. Il faut arrêter de transporter des avocats et des roses, justement, j'en parlais, à travers le monde. Mais plutôt développer au niveau local, aussi bien au niveau de l'agriculture, mais aussi au niveau des différentes initiatives d'éducation, de transmission, de un peu tout ce qui peut être fait. Et voilà, lui, il est plus pour voilà, travaillons en local. Et donc, Colibri veut se faire se rencontrer les différentes associations et les différentes initiatives au niveau local. Donc, il y a une rencontre, cette rencontre qui a lieu à 10h, c'est la possibilité pour Colibri de nous parler de ses initiatives. Voilà, et on conclut avec à 14h une table ronde autour de toutes les thématiques qui auront été abordées pendant le festival.
Eh bien, c'est super, on a fini pile poil à l'heure, à 6h, parce qu'il y a l'émission qui va démarrer tout de suite après Palestine 13. Donc, je rappelle le festival Entre Tradition et Modernité, ce sera du 12 au 22 novembre. Ça a lieu à Marseille, dans le centre-ville principalement, à la Plaine, donc à la Baleine qui divague, et dans d'autres lieux. Là, j'étais avec Antoine d'Alternative Positive. Donc, les autres lieux, c'était.
Alors, les autres lieux,
donc,
c'est le cinéma du Prado et le collège ISO dimanche 21 et l'Ostodo Pais dès vendredi soir pour la soirée sud de l'Italie.
Voilà, donc pour plus d'informations, il y a un site internet www.alternative-positive.org.
Oui, c'est ça.
Ouais. Eh ben oui, parce que t'as réfléchi avant.
Je suis un peu plus lent.
Merci à toi, Antoine, merci d'être venu nous présenter ce festival.
Merci de m'avoir accueilli.
Voilà, c'était l'émission L'Attendant à la bombe à Escalpa. Ne quittez pas tout de suite après l'émission Palestine 13. Merci à vous.
Infâme napalm, les flammes surplombent l'abîme. Que dame te crame, tout tremble et tombe